Ups.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine et je vais animer pour vous une émission tous les vendredis de 10h10 à 11h. Comme vous avez pu le remarquer si vous êtes un fervent auditeur de Radio Saint-Aff, le magazine d'actu quotidien a repris du service depuis le début de l'année grâce à ma camarade de classe Chloé. Le magazine a repris du service, oui, mais pas le vendredi, me direz-vous. C'est pour me laisser une petite place dans la diffusion et donc vous pourrez réécouter l'émission à 18h ce soir. Voilà, maintenant que nous sommes présentés, je vais vous proposer le sommaire de Ips Oups, puisque tel est le nom de cette aventure hebdomadaire. Pour commencer, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benoît, qui va nous déclamer une chronique piquante mais délirante et documentée. Bonjour Benoît.
Salut Antoine, salut à tous.
Ensuite, nous plongerons dans le monde merveilleux du petit carré d'art, qui nous a concocté un événement ce soir, et j'ai demandé à Philippe Flao, le metteur en scène, de venir nous parler de son spectacle, Celui qui... Clin d'œil à Samuel B. Et il a honoré mon invitation. Le voilà donc en direct avec nous à la radio. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Je vous inviterai pour la suite à écouter l'avis de monsieur Marie-Jean Sauret sur le mariage pour tous. Une interview recueillie par Chloé et vous allez voir, ça ne laisse personne indifférent. Après ça, je tiens à vous faire découvrir un groupe de musique. Ce sera la chronique du son hebdomadaire. Une chronique préparée par notre fervent technicien Jean et moi-même. Merci Jean pour cette collaboration. On finira bien sûr par le fidèle agenda présenté pour l'occasion par Elsa, histoire de ne pas vous laisser dans le brouillard quant aux événements à ne pas manquer. Mais sans plus tarder, je laisse la place à Benoît et son billet d'humeur.
Mais pas méchant, c'est le billet de Benoît. Youpi !
Aujourd'hui, 18 janvier 2013, on fête le 188e anniversaire de l'inauguration d'un monument de ce monde. J'ai nommé Bolchoï, le théâtre de Moscou. J'avoue, le petit carré d'art de Saint-Afrique, c'est mieux. Mais quand même, il est pas mal le théâtre Bolchoï. Notre invité metteur en scène a l'air d'accord. Bon, voilà, je voulais juste rappeler aux médias français que la culture en Russie, c'est pas juste les farces fiscales de Depardieu et Samuel Eto'o. Avançons. En ce 18 janvier, nous fêtons aussi les 324 ans du baron Montesquieu. Vous savez Montesquieu, ce mec qui a écrit De l'esprit des lois, best-seller du 18e siècle, l'époque où on lisait autre chose que Harlan Coben. Le baron, il était, comme on dit, en avance sur son temps, notamment à propos du racisme et de l'ironie. Jugez plutôt. Pour montrer l'absurdité de la supposée supériorité de l'homme blanc sur le noir, il a écrit « On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout noir. Big up au baron, utiliser l'ironie pour titiller les consciences des ignares de l'époque, c'est classe. Il était comme ça Montesquieu, fraternel. Faut dire que ses parents lui avaient choisi un mendiant comme parrain, afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres sont ses frères. Ah, l'éducation. Bon, en parlant de fraternité, je voulais revenir sur les propos de notre estimé député local, Alain Marc. Revenant tout gai de Paris et de la manifestation pour tous, sous-entendu contre le mariage des personnes homosexuelles, notre fripon a affirmé qu'il n'y avait pas entendu la moindre expression homophobe. Passons sur le fait qu'un des slogans était « Non à l'homophobie ». Passons aussi sur cette poétique pancarte où il était expliqué que « Confondre vie privée et mariage civil, cela revient à transformer les hommes en singes ». Passons, car notre ami le député, il n'a pas pu tout voir. Il y avait quand même du monde dans cette manif des honnêtes gens. Faut dire aussi que la communication était au top. Distribution papier des bonnes réponses à donner aux journalistes pour ne pas passer pour des réacs. Volontaires qui chassaient les mauvais bougres qui criaient « mort au PD ». Distribution de pancartes roses. Bref, hyper pro le truc. Dur de trouver des banderoles « mariage homo égale décadence » comme dans d'anciennes manifs. Par contre, Alain Marc, il a aussi dit que l'ambiance était très tolérante. Tolérante. La tolérance, à la base, c'est le refus des discriminations et c'est un des principes de notre belle démocratie. Enfin, c'est ce que j'ai appris à la télé, à l'école. Or, l'un des mots d'ordre de cette manif était « contre le mariage pour tous ». Contre et tous accolés dans la même phrase. J'ose me demander s'il n'y a pas un poil de paradoxe là, quand même. Bon, je ne reviens pas sur tous les avis allant contre le mariage des personnes du même sexe. Après tout, on peut assumer avoir une vision ringarde de la famille. Mais quand même, juste un mot sur un supposé argument puissamment brandi dans la manif de dimanche. C'est celui selon lequel le mariage de personnes du même sexe serait contraire à l'intérêt des enfants vivant avec elles. Si j'ai bien compris, seuls sont et seront équilibrés les gosses nés et éduqués dans un mariage bien comme il faut. C'est-à-dire où il y a un papa mâle et une maman femelle. Mais il y a déjà plein de cas où c'est pas comme ça, et même sans mariage gay. Mesdames et messieurs les manifestants du dimanche, puisque vous vous révoltez dans l'intérêt des gosses, sans jeu de mots, je vous prends au mot. Manifestons contre tout ce qui fait qu'un enfant sera privé de l'un de ses parents et du mariage paritaire de ses géniteurs. Commençons par le divorce. Sacré salaud celui-là. En plus de mettre les pauvres gosses dans une situation d'instabilité psychologique et matérielle, il tue un mariage et un foyer. Paf, comme ça, en deux signatures. Mes frères et sœurs, manifestons contre le divorce. On aurait plein de super slogans, genre « Face au divorce, on bombe le torse ». Faut absolument mettre fin au divorce, ce droit dégénéré. Et tant pis si le couple ne s'aime plus et que les enfants pâtissent de la situation. Faut sauver le soldat famille parfaite. En plus, il y a matière à manifester. 130 000 divorces par an. Les quelques dizaines de milliers de futurs mariages gays, c'est de la rigolade à côté. Dans la lignée des choses qui vont à l'encontre de « un papa plus une maman égale, y a pas mieux », il y a aussi la monoparentalité. 2,5 millions, c'est le nombre d'enfants élevés par un seul parent en France. Là encore, le futur nombre de mariages homo peut aller se rhabiller. Allons manifester contre cette horreur qu'est la monoparentalité. Scandons en cœur, non à la monoparentalité, cette machine à pédé. Et puis tant qu'on y est, manifestons contre la mort. Elle aussi sépare des enfants du couple papa-maman. Non à la mort, les enfants d'abord. Alors monsieur Marc, on se les organise ces manifs, vous êtes chaud? On peut commencer à Saint-Taf, ça fera parler de nous. C'est bon pour la notoriété, ça. 2014, c'est déjà demain. Bon, au final, on se prend la tête pour pas grand-chose, en fait. Le mariage, c'est un truc petit bourgeois, non? Un tue-l'amour, un truc réac, un papelard qu'on signe pour des questions de gros sous. Le mariage, c'est le papa du divorce. L'union devant le maire, c'est la mère de la rupture. C'est moche. J'ai eu la tentation de céder la parole au voisin Brassens et sa non-demande en mariage. Je préfère laisser la parole à un régional de l'étape, un vrai. Non, pas à Sébastien David, conseiller municipal de Saint-Taf, un autre manifestant du dimanche. Non, je laisse l'antenne à Claude, qui nous rappelle, puisqu'il le faut encore, que l'amour n'a pas à s'encombrer de conventions, même si c'est un coq qui aime une pendule.
Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. une ferme du Poitou, un coq met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie, qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles, en écoutant son Don Juan lui seriner sa séguedille. Pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico, un coq émet une pendule.
Et voilà, c'était Claude Nougaro, un coq émet une pendule. Merci beaucoup Benoît pour cette chronique exaltante, encore une fois je les adore, décidément. Et je me tourne maintenant vers Philippe Flao, metteur en scène du spectacle que vous avez peut-être vu hier soir au Théâtre de la Maison du Peuple à Millau, mais surtout que vous êtes convié à venir voir ce soir au Petit Carré d'Art. Ce spectacle s'appelle « Celui qui », clin d'œil à Samuel B. J'ai pu lire que le titre fait référence à Samuel Beckett. C'est un personnage que je ne connaissais pas et sur lequel vous avez déjà travaillé auparavant. Pouvez-vous nous parler de lui pour les auditeurs qui, comme moi, découvrent ce monsieur Beckett ?
Oui, bonjour. Encore félicitations pour la chronique.
Merci.
Je me suis vraiment régalé. Oui, alors en deux mots, Beckett, parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures. Auteur irlandais, né dans les années 1900, je ne sais plus, 1907, par là. Mort depuis pas mal de temps maintenant, vers les années 89, voilà. C'est important de resituer un peu historiquement un auteur. C'est quelqu'un qui est né donc, et qui a vécu et qui s'est mobilisé contre l'envahisseur fasciste du moment. Voilà. Et pour lui, Auschwitz a été un moment, il n'y est pas allé, mais un moment qu'il a combattu et qui a été important dans son œuvre plus tard. Des petites anecdotes sur sa vie importantes. C'est quelqu'un qui écrit directement en français. Il habite Dublin, il est irlandais, il va rapidement venir en France. Toute son œuvre va, il a dit souvent, on a très peu interrogé Beckett, c'est quelqu'un qui était un peu timide comme ça. Il a dit que toute son œuvre reposait sur deux choses. Un, qu'il avait entendu un jour que sa mère disait à quelqu'un d'autre qu'il n'avait pas été désiré. Deux, sur Auschwitz. Et trois, à un moment donné, il s'est fait poignarder dans les rues de Londres. Et... ben voilà, comme citoyen, il n'a pas été porté plainte, il a simplement voulu savoir pourquoi cet homme a voulu le tuer. Voilà. Donc véritablement, on est dans un théâtre où Samuel Beckett va représenter des personnages, on est dans le théâtre de l'absurde, dans les années 60, 50, il crée trois spectacles importants. Le premier, c'est En entendant Godot, qui est le spectacle qui a tourné le plus dans le monde, qui a eu beaucoup de mal à démarrer, parce que effectivement les spectateurs étaient habitués à un spectacle bourgeois, on est toujours habitué à ça d'ailleurs, hélas, à s'asseoir dans une salle et écouter une petite histoire, voilà, ouais. Et à ne pas se poser de questions. À être plutôt
il crée le mouvement absurde dans le théâtre ?
C'est pas lui, hein. Il y a eu des précurseurs, Sartre, entre autres, voilà, et donc on est dans ce mouvement-là. Ce qui est intéressant à examiner, c'est que les spectateurs quittent les salles régulièrement, ne restent pas, c'est quelque chose de nouveau. Le nouveau fait peur. La peur, c'est quoi ? C'est la mort. La mort, c'est quelque chose d'inconnu dans lequel notre société ne parle jamais. Voilà. Et tout ça pour dire que, à un moment donné, il reçoit quand même le prix Nobel de littérature. Et pour ces mêmes spectacles, d'un seul coup, les salles se remplissent. Comme quoi, c'est une bonne leçon. Hein, d'accord. Voilà, cela dit, je pense que toute son œuvre repose sur... voilà, c'est un pied de nez à l'être humain. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre ? Pourquoi on est là ? Jusqu'où on va ? Et avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire, il y a un clin d'œil véritablement humoristique sur l'absurdité de l'être. Voilà. Ce qui permet... Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, hein, moi, que c'est qu'il faut... Bon, voilà... Sur Samuel Beckett, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années parce que Bon, je ne sais, il y a très longtemps que je n'avais pas travaillé sur Beckett, mais j'y suis revenu parce qu'il me semble que le spectateur a besoin de réflexion, a besoin aussi de ne pas toujours être dans la certitude de tout comprendre. Voilà, c'est des choses qui me font un peu peur quand une salle de spectateurs a tout compris au même moment. Voilà. Et je pense que la culture actuellement, elle dévie vers ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre tout de suite, dans l'immédiateté. Voilà, et que ça empêche effectivement l'individu de réfléchir et de penser peut-être, de ne pas avoir une pensée unique avec ce qu'il voit. Voilà. Donc... J'ai voulu revenir sur ce travail de l'absurde, et puis particulièrement, je dirais, entre guillemets, pour m'adresser à tout public, bien sûr, mais les tournées le montrent, à un public de jeunes qui permet... Bon, c'est pas évident, hein, les jeunes qui rentrent dans le théâtre de l'absurde, mais voilà, ça leur permet au moins de se positionner, au moins il y a des super réactions à la fin du spectacle, il y a des bords de scène très passionnants, voilà.
Super. Ok, donc on connaît un peu mieux ce monsieur Beckett, du coup. La pièce de ce soir, c'est une pièce que vous avez travaillée en collaboration entre vous-même pour la mise en scène et monsieur Philippe Forgeot, qui en est l'auteur. Je vais sortir les citations de leur contexte, alors n'hésitez pas à me reprendre, mais d'une part, vous êtes touché, vous dites, par son écriture que vous qualifiez de douloureuse, et d'autre part, que vous le considérez comme quelqu'un d'aguerri aux expériences artistiques à la marge. Pouvez-vous nous présenter M. Forgeot en quelques phrases ?
Ouais, je ne sais pas où vous avez pris ça. Oui, c'est sûr, j'ai dû dire ça à un moment donné. Philippe, c'est un auteur... Voilà, moi, j'aime beaucoup travailler en compagnonnage, c'est-à-dire faire vivre des auteurs vivants, leur dire, il y a peut-être Beckett, mais il y a toi aussi. C'est un auteur breton, il y a un compagnonnage de 4-5 ans qui s'est installé avec moi, dans le sens que je lui fais des commandes d'écriture. Voilà. Ouais. On passe des commandes, il écrit... Voilà comment ça se passe au départ. On se voit 2-3 jours dans le travail, et puis après, il se passe 6 mois, 7 mois, enfin, je le laisse travailler, sur lequel, moi, j'interviens plus du tout. Et puis après, inversement, quand il me file le texte pour la mise en scène, il découvre à la fin son texte. Philippe, c'est rien que sa compagnie s'appelle la compagnie du désordre. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est dans le désordre dans sa tête et puis dans son écriture. C'est quelqu'un de très tranchant. J'ai beaucoup aimé aussi les metteurs en scène, donc c'est comme ça que j'ai connu, j'ai aimé ces spectacles. Voilà, donc je lui ai confié une écriture en lui disant, voilà, Samuel Beckett, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En 2000, j'ai monté fin de partie un texte de Samuel Beckett. Seulement, les auteurs, surtout celui-là, il n'y avait pas de descendance. Donc quand on monte un texte d'un auteur vivant, il faut demander les droits d'auteur, ce qui est normal, pour pouvoir le faire. Et puis, s'il y a des descendants, on demande à ses descendants. S'il n'y a pas de descendants, on demande souvent aux éditions, là, entre autres, c'est édition de minuit pour Samuel Beckett. Et Samuel Beckett, avant de nous quitter, a été c'était quelqu'un de très maniaque. Et il a laissé les droits aux éditions de minuit en disant vous pouvez faire monter mes spectacles par n'importe qui, sauf qu'il faut respecter toutes les didascalies à la lettre. Ouais. C'est-à-dire, quand il dit qu'il faut une toile verte dans le fond de la scène, il faut une toile verte. Voilà. Donc, comme je suis un peu un électron libre, je l'ai monté en 2000, fin de partie. J'ai respecté à la lettre parce que des gens de les éditions sont venus voir si on pouvait le tourner. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas demander à un auteur de tourner autour des personnages de Samuel Beckett, qui sont des personnages qui sont dans l'attente dans l'attente d'un signe, qui pourrait leur expliquer leur existence. Et donc, il a écrit...
Plus libre dans la mise en scène.
Voilà. Alors, en deux mots, on est... Par rapport à son écriture sur celui qui, clin d'œil à Samuel Beckett, il y a un clin d'œil à Samuel Beckett, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de sa vie à l'intérieur de ce texte. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est la représentation de ces deux personnages emblématiques qui sont Vladimir et Estragon, quand ils attendent au pied d'un arbre pendant 2 heures, et qui s'appelle En entendant Godot. Et quand on lui a demandé à Beckett qui était Godot, il a dit, par une pirouette, si je savais qui était Godot, je l'aurais dit. Voilà. Et même si le mot God qui veut dire Dieu, qui nous donne des signes, c'est pas Dieu que ces gens-là attendaient, c'est quelqu'un d'autre. Et donc Philippe Forgeot a écrit un texte qui est proche aussi d'un texte de Pierre Andello qui s'appelle « Six personnages en quête d'auteur ». C'est-à-dire qu'il a fait vivre sur un plateau de théâtre. C'est pour ça que je suis ravi de venir sur n'importe quel plateau de théâtre, que ce soit au Petit Carré, hier à la Maison du Peuple, des expériences qu'on a fait aussi de rue, etc. Sont des l'histoire, s'il y a une histoire, ce sont sept comédiens qui attendent sur un plateau de théâtre qui est vide. Et ils attendent qui ? Un auteur pour leur écrire une histoire. Et ils s'aperçoivent qu'au fur et à mesure de leur jeu, ils prennent le personnage d'un auteur qui est en train, dans les coulisses, en train d'écrire leur histoire. Voilà, c'est-à-dire que pour vivre, ils leur font un auteur. Et voilà, tout est... Alors, il y a beaucoup de dérision, bien sûr, sur la vie. Il y a beaucoup d'humour sur ces, entre autres, ces sept personnages qui vont vivre pendant 1h20. Voilà. Alors, au Petit Carré, si je peux embrayer là-dessus. Au Petit Carré, ben, je suis complètement ravi de venir parce que non seulement c'est un lieu que j'apprécie en tant que spectateur, aussi en tant que compagnie Création Éphémère, parce qu'on y vient très régulièrement. Et c'est un lieu que j'apprécie, c'est un petit lieu. On est quand même, il y a un musicien, on est 11, 12, 13 personnes dans l'équipe artistique. Et sur ce petit plateau, on va réinvestir complètement le Petit Carré. C'est-à-dire que le spectacle va commencer dans le bar. Voilà, c'est des choses qui me passionnent. Là, on est en fin de tournée, donc les comédiens peuvent se livrer à beaucoup d'autres choses que simplement un regard frontal d'un public. Voilà, j'en dis pas plus, il y aura des surprises. Mais il est déjà transformé en conséquence. On est venu samedi dernier le transformer pour que le spectacle soit différent des spectacles de la tournée.
Excellent, d'accord. Ok. Et ben voilà, vous avez répondu à ma dernière question qui concernait la soirée de ce soir. Eh ben, il me reste à vous demander si vous avez des projets pour plus tard concernant la mise en scène ou des rendez-vous à donner à des auditeurs soucieux de suivre vos travaux.
Oui, bien sûr, les projets, il y en a. Heureusement, on en a. Après, pour les réaliser, c'est autre chose. Mais ouais, les projets, tant que la pensée est là, comme dirait Beckett, les projets, on en a. Donc, je suis là en train de refaire une commande, une dernière peut-être commande, avant de passer avec un autre auteur. À Philippe, commande sur un Roméo et Juliette, qui serait une petite forme entre un Roméo et une Juliette, j'en dis pas plus. Le Roméo, ben, ça sera joué en tout cas par Théo Kermel, qui est trisomique, qui est une personne trisomique, et qui va jouer ce soir le rôle de Bam dans Celui qui. Voilà.
Bah décidément, c'est le mariage pour tous, toutes ses formes.
Exactement.
Ok, bah merci beaucoup Philippe d'avoir accepté mon invitation et répondu à ces quelques questions. Je vous invite maintenant à écouter un morceau de musique et on se retrouve tout de suite après pour un entretien téléphonique avec Monsieur Sauré, psychanalyste et professeur à Toulouse. On écoute tout de suite Bitter Better de Miss White and the Drunken Piano.
Don't stop playing. Heave away, heave away. You've heard it all before. Stop, don't stop playing. Heave away, heave away. You've heard it all before. I heard a story about a saxophone player. He was as dark as the century. His melody soft and white as a feather. How can such a soul music? Don't stop playing.
Mr. Cohen, Master.
Revenons à nos moutons. Marie-Jean Sauret est psychanalyste, il est professeur et chercheur universitaire à Toulouse, il fait partie du comité de rédaction du magazine Psychanalyse. Il est également directeur du département de psychologie clinique du sujet et j'en passe. En bref, un érudit plein d'humilité à qui Chloé a eu le malheur de demander son avis à propos du mariage pour tous. Il ne conçoit pas de réponse à cette question par la psychanalyse. Écoutez plutôt.
Pour le coup, si vous me permettez juste une remarque, on se tromperait de demander un avis à la psychanalyse. Enfin, un avis qui aurait force de, je ne sais pas comment dire, de loi qui s'imposerait.
Vous avez pas de... Vous, quelle est votre position personnelle?
Je peux essayer de dire quel est le champ à partir duquel on peut essayer de problématiser les choses. Comment dire ça? Vous savez, les opposants au mariage pour tous, aujourd'hui, je vais peut-être vous dire quelque chose d'un peu brutal, mais les opposants au mariage pour tous s'appuient sur le fait que les lois divines et les lois de la reproduction naturelle seraient les mêmes. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le mariage, ça équivaut à la reproduction sexuée, à enregistrer la reproduction sexuée. Et alors, je trouve d'ailleurs très comique les critiques qui traitent les homosexuels d'animal et qui promettent toutes les débauches, parce qu'aucun animal ne se marie, jusqu'à nouvel ordre, et les animaux, s'ils sont pour la reproduction, entre guillemets, hétérosexuels, il n'y a pas de famille chez les animaux, hein. Et même les animaux qui élèvent les enfants en couple, à part peut-être les oiseaux et quelques grands mammifères, mais c'est quand même assez rare. C'est plutôt des harems. Donc ça, c'est pour déjà dire que peut-être qu'il faudrait débroussailler les choses. Mais j'ai quand même l'impression que je dis ça pour dire, j'ai l'impression d'une sorte de charia chrétienne, où on critique la charia, qu'on confond d'ailleurs avec l'islamisme, qui serait un mode de vie déduit d'une conviction religieuse qui imprègne une société et on veut l'imposer à tout le monde. Ça fait une grosse différence avec les manifestations pour l'école privée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, des années 98, où l'école privée disait à l'État « ne venez pas vous mêler de nos affaires » en quelque sorte. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'une conviction religieuse veut faire la loi dans le pays. Mais pour moi, c'est homogène à toute... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, ce que je vous dis. Après, du point de vue de la psychanalyse, ce que je peux dire, c'est que justement, la sexualité humaine, elle n'est pas animale, et que chez l'humain, rien n'est fixe, ni le partenaire qui peut être homo ou hétérosexuel, ni le but, il n'y a pas que le coït, ni, je ne sais pas moi, les moyens d'arriver à la satisfaction, enfin, ni l'objet, ni rien. Au fond, chez l'humain, tout est traversé et pris dans une tension entre le sujet et l'autre, et c'est le fait que le sujet, c'est un être parlant, c'est quelqu'un qui habite le langage, et c'est le fait que le sujet ne se confond pas avec son individualité biologique qui lui donne cette espèce de, on pourrait dire, d'émancipation de sa biologie. La biologie ne dit pas à l'humain ce qu'il doit faire de sa biologie. Voilà. Alors après, ça peut poser des questions. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Parce qu'on prône une perversion généralisée ou je ne sais pas trop quoi. Moi, des fois, j'ai envie de traiter ça un peu par l'humour. C'est-à-dire, si on a peur que les enfants des homosexuels deviennent homosexuels, il faut quand même se rappeler que tous les homosexuels sont quand même des enfants d'hétérosexuels. Donc si on veut se débarrasser de l'homosexualité, il faut se débarrasser de l'hétérosexualité.
Des propos qui sortent des sentiers battus, recueillis par Chloé auprès de Monsieur Sauret, professeur en psychanalyse. Et je vois que Benoît a noté quelques trucs, si tu pouvais faire partager ton avis.
Non, mais juste une chose, moi c'est la première fois que j'entends le discours d'un psy qui se termine pas par « Merci monsieur, vous me devez 40 euros, à la semaine prochaine
». Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Flaveux?
Tout le monde le monde fait ce qu'il veut, et puis voilà. Il n'y a pas de problème.
On passe tout de suite à une rubrique plus légère, musicale. Écoutons le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire.
Le son hebdomadaire. Le son hebdomadaire. Hebdomadaire.
Cette semaine, deux morceaux que nous avons eu envie de vous faire découvrir. Le premier s'appelle Hop Hip. Non, c'est pas une blague. Il est composé et interprété par Milanga. Milanga, un univers oscillant entre traditionnel avec sitar et didgeridoo et moderne, groove machine. Une fusion où chaque son appelle à la découverte. L'histoire commence en 2009 avec Ben et Pierrot, tous deux grenoblois. L'un est passionné de musique instrumentale et l'autre de groove machine. Ils décident de créer le projet Milanga. Ensemble, ils explorent l'univers du dub et de la trance en passant par le trip-hop, apportant leur vision personnelle d'une musique actuelle et éclectique. L'album Danse de Liane sort en 2010. Depuis 2011, Milanga s'est enrichi de nouveaux membres, Zalem, Noémie et Ishar. L'album 5 titres diphoniques, sorti en septembre 2011, nous présente un Milanga vibrant et aérien, où tradition et modernité cohabitent avec élégance. Une écoute vaut mille mots, jugez donc par vous-même. Et voilà, c'était Milonga. Hop, hip. On enchaîne avec Sphinx. Le groupe existe depuis 2006 et leur premier album Like a Monkey est sorti en juin 2010. Un nouvel album intitulé It's Funk O'Clock vient de sortir chez Grolectif à consulter sur internet. Sphinx, c'est un groupe qui fait danser et transpirer un concentré de groove bruyant et explosif. À mi-chemin entre rock survolté et funk psychédélique, neuf Lyonnais qui n'ont pas froid aux yeux et ont inventé le Groll Groove and Roll. Groll pour les intimes. Une solide culture soul, des fulgurances de funk rock furieux, quelques fragrances d'afrobeat et de subtils clins d'œil au dance floor achèvent de donner à ce nouveau cocktail tout son arôme. Guitare, clavier, basse et batterie propulsent cet équipage infernal piloté par deux chanteurs endiablés et pimenté par une section de cuivre délicieusement incisif. Fort de cette formule irrésistible et imposante, Sphinx donne la fièvre aux allumés du genre et le vertige aux moins avertis. On écoute Like a Monkey de l'album du même nom. Une chose est sûre, vous n'allez pas en croire vos orteils. On termine, comme promis, cette émission par votre habituel agenda que nous devons aujourd'hui à Elsa. Merci Elsa.
Oh là là, je m'ennuie. Il n'y a rien à faire par ici.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as pas écouté l'agenda de Radio Saint-Aff, toi ?
Sorties, concerts, expos et même cinéma et météo. C'est ça l'agenda de Radio Saint-Aff.
plus, vous avez de la chance, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, à Saint-Afrique, l'actualité culturelle est riche et variée pour ceux qui oseront sortir de dessous leur couette et affronter les frimas de l'hiver. Alors, on commence avec le lieu-dit, où Christina vous apprendra l'anglais à partir de 19h. Do you speak English? Je presse une petite judge. Moi non. Ce soir, la compagnie Création Éphémère présente son spectacle « Celui qui », clin d'œil à Samuel B. C'est au Petit Carré d'Art à 20h30. Au caveau de la salle des fêtes de Saint-Afrique, l'association Lagrange vous invite à un bal folk avec les Rita Boga. C'est ce soir à partir de 21h. Ce soir toujours, mais à Millau, Marie-Jean Sauré, psychanalyste, vous invite à une rencontre intitulée « Le lien social dans tous ses états ». C'est à la salle de conférence de ZISA, avenue de la République, à Millau, et c'est à 20h30. L'entrée est de 7 euros. Plus loin, plus froid, mais toujours aussi chaud, la Guinguette Lautrec à Rodez organise une soirée Sound System. C'est ce soir à partir de 21h pour seulement 3 euros de paf! Demain, à Saint-Afrique, l'association Danseuses et Loisirs organise une journée de perfectionnement au rock. Rue Jean Moulin, dans le local du CAC. C'est à partir de 14h30. À Millau, demain après-midi, au Théâtre de la Maison du Peuple, un spectacle de marionnettes, Zazie et Max, explore avec tact et drôlerie la thématique des genres, des avec ou sans zizi. Et ouais, une question existentielle de poids. Il y a deux représentations, à 15h et à 18h. Après la séance de 15h, une pause conviviale et une discussion informelle autour d'un verre est proposée aux parents avec Thérèse Marie Ibel, psychothérapeute. Pendant ce temps-là, de 16h à 18h, les enfants pourront assister à un atelier de fabrication de marionnettes et manger la galette des rois. La fameuse galette des rois. Qui c'est qui va avoir la fève, hein ? Demain et dimanche, la compagnie Création Éphémère propose un stage de voix, présence scénique et gestion du trac. C'est important ça, la gestion du trac. C'est animé par Jean-Raymond Gélis. C'est samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Et c'est à la fabrique à Millau. L'inscription au stage est de 60 euros. Dimanche, l'association Danseuses et Loisirs, encore elle, donne rendez-vous aux danseurs à la salle des fêtes de Saint-Afrique pour un thé dansant, animé par l'orchestre Serge Vergne. C'est de 15h à 20h. Dimanche, la compagnie 5 de cœur se produit à la Maison du Peuple à Millau, c'est à 17h. Les expos à la bibliothèque de Saint-Afrique, exposition Les arbres remarquables en Aveyron. L'entrée est libre et gratuite et c'est jusqu'au 31 janvier. L'espace culture à Millau accueille l'exposition Femmes de l'Aveyron. C'est jusqu'au 29 janvier. Les cinémas à Saint-Afrique, le cinéma Le Moderne projette à 21h Jack Reacher et Les bêtes du Sud sauvage. À Camarès, le cinéma Le Temple projette à 21h Skyfall. Et les cinémas de Millau projettent à 20h45 le dernier film de Quentin Tarantino, qui s'intitule Django Unchained. Ismar, le technicien, c'est de l'anglais. Il faut que j'aille apprendre de l'anglais au lieu dit, à Saint-Afrique. Ce soir à 19h, au lieu dit, pour apprendre l'anglais. Donc le dernier film de Quentin Tarantino, je n'essaierai pas plus loin de prononcer, ça sert à rien. Le Hobbit, de l'autre côté du périph', et à 21h, Maniac. Alors Maniac, il y est question d'un tueur en série en quête de scalp. Ça va faire mal, c'est interdit au moins de 16 ans. Météo aléatoire. La neige est tombée et elle retombera. Aujourd'hui peut-être, on verra. Ce sera sur le tard. On sera rentré à la maison dardard. Demain et dimanche aussi, il est prévu une blanche pluie et des températures à rester au lit. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. Et n'oubliez pas les bouillottes pour garder votre petit peton au chaud. Ciao !
Et voilà, c'est la fin de cette première édition de Hips Oups. Merci d'avoir écouté, et si ça vous a plu, ramenez-nous vos amis. Merci à toute l'équipe pour votre soutien, aussi et particulièrement à Philippe Flao qui, je vous le rappelle, nous présente son spectacle « Celui qui », hommage à Samuel B. ce soir au Petit Carré d'Art. Merci Philippe.
Merci à vous.
Et bien sûr à Benoît pour cette chronique déjantée.
Hips, salut.
Sans oublier la technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. On écoute tout de suite un peu de musique sur Radio Centrafrique.